Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, c'est un débat des grandes voix un peu particulier que l'on vous propose, chers auditeurs et auditrices, un débat avec les grandes voix de la jeunesse pour notre semaine spéciale sur Europe 1. À quoi rêvent les jeunes? Eh bien, on va en débattre avec eux, justement. Bonsoir Camille Etienne.
Bonsoir.
Vous avez 22 ans, vous êtes étudiante et militante écologiste. C'est vous qui avez notamment réalisé cette vidéo devenue virale, on l'entendra tout à l'heure, devenue virale en Europe pour appeler la jeunesse à se réveiller. On est également avec Guillaume Bénèche. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 21 ans, vous êtes jeune entrepreneur, cofondateur du magazine Le Petit Mardi. On vous a souvent d'ailleurs présenté comme le plus jeune patron de France. Bonsoir Gabriel Légéré. Vous avez 27 ans, je crois. Ouais. Vous êtes étudiante à Sciences Po et responsable à l'association Chemin d'Avenir qui aide des jeunes de la France rurale à s'engager. D'ailleurs, vous les appelez les invisibles, ces jeunes-là. Pourquoi ?
Parce que les jeunes ruraux et les jeunes issus des petites villes cumulent les obstacles face à leur parcours. Ils sont freinés dans leurs aspirations. Ces obstacles, ce sont le manque d'informations, l'éloignement des opportunités académiques, professionnelles, culturelles.
Ça a été votre cas ? Ça a été votre cas ? Vous avez
Ça
eu du mal pour...
Cas. Oui, moi j'ai grandi dans un petit village de Touraine. Et c'est vrai qu'à l'heure d'orientation, c'est compliqué. Et ces jeunes sont restés longtemps dans l'angle mort des politiques publiques, dans l'angle mort des dispositifs d'égalité des chances. Et on voit que la crise a encore plus fragilisé leur situation.
Alors Emmanuel Macron s'est beaucoup exprimé récemment et depuis un an, mais particulièrement ces dernières semaines, sur la désespérance de la jeunesse, les étudiants et puis les autres. Il dit par exemple ceci, le président de la République.
Je pense que jamais dans l'histoire contemporaine, la période n'a été aussi injuste pour notre jeunesse. Mais qu'elle croit en une chose, c'est qu'on est tous conscients, et moi au premier chef, qu'on lui doit quelque chose et qu'on sortira de cette crise, et je m'en porte garant, en étant encore plus au rendez-vous de ce qu'on lui doit. On ne peut pas sortir de cette crise en ayant juste plus de dettes financières qu'on lui laissera, une dette climatique qu'on n'aura pas réglée et une espèce de morosité qu'on va lui laisser.
C'est vrai que ça ne fait pas rêver sur le papier quand on entend l'énumération du président de la République, Guillaume Bénèche. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette déclaration ?
Ce que je trouve rigolo, c'est qu'on se concentre plutôt et davantage et que le gouvernement s'intéresse davantage à la sortie de la crise avant de penser à ce qui se passe maintenant. Mais je pense que c'est assez révélateur finalement de...
Il y a des annonces qui ont été faites quand même.
Oui,
sur
bien sûr,
la
mais
crise
bon, au-delà des annonces, et on voit le désespoir de la jeunesse aujourd'hui, notamment des étudiants, je pense que c'est un fait, et on l'a vu encore plus ces dernières semaines. Là où c'est j'ai même envie de dire rigolo en fait, que le gouvernement puisse porter ce regard-là, et notamment le chef de l'État, c'est qu'on en vient finalement à parler ici, il parle beaucoup avec expérience et un vrai regard sur le passé en se tournant beaucoup vers l'avenir, avant même de penser beaucoup en fait tout simplement au fait qu'il y a un regard à porter aujourd'hui et maintenant, et que ce regard-là est dans les actions, c'est là où on l'attend. Et d'ailleurs je pense que voilà, on l'a vu encore ces derniers jours avec les différents ministres qui se sont précipités sur des nouveaux usages de la jeunesse pour s'adresser à eux. Quoi.
Mais on ne peut pas leur reprocher de faire des annonces alors que jusqu'à présent on leur disait d'être un peu... On leur reprochait d'être un peu passif, de ne pas faire suffisamment pour la jeunesse. Vous me répondrez dans quelques secondes, je voudrais l'avis également de Camille Etienne. Comment vous jugez les décisions prises par le gouvernement depuis, allez, non pas un an, parce que le début de la crise, on était dans quelque chose d'inconnu, mais depuis 8 mois.
Sur la jeunesse spécifiquement, parce qu'on a une réponse sur l'environnement, mais sur la jeunesse spécifiquement.
Non, on va en parler de l'environnement.
Non, je rigole.
Sur la jeunesse d'abord.
Oui, non, mais en tout cas, elle est très tardive. C'est marrant de voir que c'est la culture et les jeunes. C'est un peu, on se dit, bon, il y a les troubadours et puis ceux qui ne vont pas trop se révolter. Donc, ils attendront plus tard, on verra. Et en fait, non, on se rend compte que.
Pourtant, les jeunes, on sait que c'est plutôt eux qui se révoltent les premiers.
Et donc, justement, pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps pour répondre ? Et est-ce que la réponse est suffisante ? Ça encore, on peut en discuter. Voir que cette détresse, elle a été prise vraiment. Non, évidemment que non. Je pense que. On en parlait en antenne avec Gabriel, c'est d'abord des réponses économiques qui sont discutables, parce que est-ce qu'un prêt, est-ce que démarrer dans la vie au lieu d'étendre des aides, au lieu de démarrer dans la vie avec des dettes, est-ce que réellement c'est pertinent? Je ne suis pas sûre que ce soit une réponse adaptée pour ma part.
Qu'est-ce que vous attendiez vous par exemple?
Par exemple, il y a cette question d'étendre le RSA, il y a cette question à la jeunesse.
Mais le RSA,
ça ne
concerne pas directement les jeunes, c'est plutôt les
non-étudiants. Il y a tout un tas de jeunes, et d'étudiants qui en effet n'ont pas, ont perdu leur petit boulot. Un tiers d'entre eux ont perdu leur petit boulot parce que c'était des choses qui, dans la restauration par exemple, typiquement, dans les salles de spectacle, toutes ces choses qui étaient faites par des jeunes qui ont
c'est
disparu.
Vrai, on en parle régulièrement
donc,
à ce micro.
Comment est-ce qu'on fait pour... Parce qu'en fait, il faut se rendre compte aussi qu'il y a plein de jeunes qui, même si aujourd'hui on a la chance en France d'avoir des études qui sont souvent gratuites, il y a plein de de dépenses autour qu'on n'imagine pas. Et en fait, beaucoup de jeunes qui sont obligés de travailler en parallèle. Et quand ils n'ont plus ces salaires-là, comment est-ce qu'ils font ?
Donc vous dites qu'il aurait fallu mettre en place, indépendamment du RSA jeune, on en parlera tout à l'heure, qui concerne plutôt les non-étudiants, en réalité, ceux qui n'ont pas de boulot, parce que c'est vrai qu'en dessous de 25 ans, on n'a pas le droit aux minima sociaux. Donc vous dites qu'il aurait fallu créer, pour les étudiants, on va parler d'eux en premier, il aurait fallu créer une aide spécifique, une aide financière, un petit coup de pouce ?
Par exemple, étendre la bourse. Par exemple, je sais qu'Anne Hidalgo en parlait, de faire un aide, là, je crois que c'était 500 euros qui était discuté. Ce serait pertinent de plutôt que... Moi, je trouve ça problématique de se dire on va proposer aux jeunes de démarrer dans la vie, un peu comme ça se passe aux États-Unis avec des prêts. Pour moi, ça me pose problème, en effet.
Gabriel Légéré, qu'est-ce que vous attendiez, vous, de ces annonces gouvernementales ? Il y a ce qui vient d'être évoqué, et puis il y a aussi l'idée que le gouvernement a mis en place, alors bonne ou mauvaise idée, vous allez me répondre, 2 repas par jour à 1 euro pour les étudiants.
Oui, c'est une bonne chose, mais je pense que ces fragilités, elles ont été exacerbées par la crise, mais elles existaient déjà avant. Si je prends ma casquette de responsable associative, la jeunesse rurale, elle cumulait déjà des obstacles. Et là, avec la crise, qu'est-ce que c'est ? C'est une fracture digitale qui est amplifiée. Qu'est-ce que c'est quand on habite dans un petit village des Vosges, qu'on n'a pas beaucoup Internet, on est complètement exclu du marché de l'emploi ?
Oui.
C'est aussi le gel des opportunités. Et ces opportunités, elles vont freiner l'orientation des jeunes, mais aussi leur qualité de vie. Camille le disait très bien, mais dans la Nièvre, par exemple, nous, on accompagne beaucoup de jeunes qui ont des jobs étudiants dans le tourisme. Mmh. Mais crise égale pas de tourisme, pas de tourisme égale pas de job égale pas de loyer pour payer.
Et vous pensez que c'est irréversible, ça ?
Je pense qu'il faut une véritable politique publique à l'égard de ces jeunes qui traite les problèmes à la racine.
Oui.
Et qu'aujourd'hui, ce sont des aides financières, elles sont bienvenues, elles sont
parce
bienvenues.
Qu'on est dans
exactement.
L'urgence. Parce qu'on est dans l'urgence. Alors, on continue d'en parler dans quelques secondes. On marque une première courte pause, 18h40, et on se retrouve pour les grandes voix de la jeunesse jusqu'à 19h. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h42, avec toujours le débat des grandes voix de la jeunesse, ce soir avec nos 3 invités pour réfléchir et parler ensemble de l'avenir et de ce en quoi croient les jeunes, et puis leur désespoir aussi. Vous savez qu'on en parle beaucoup en ce moment, et on réagissait juste avant la pause aux annonces, notamment du gouvernement. Alors, Guillaume Bénèche, vous avez 21 ans, vous êtes jeune entrepreneur, je le disais tout à l'heure, cofondateur du magazine Le Petit Mardi, et c'est vrai qu'il y a un sujet qui est beaucoup revenu depuis le début de la crise du Covid, c'est cette petite musique, celle d'avoir sacrifié les jeunes générations pour la protection des aînés. Est-ce que, pour vous, c'est une réalité, cette fracture entre les générations ?
La fracture entre les générations existe, et je pense que la véritable solution à ça, c'est le dialogue. On a essayé, et on essaye beaucoup, et d'ailleurs, d'opposer les générations entre elles. On l'a encore vu, il y a peu de temps, cette fameuse phrase « Ok, boomer » et oui. Toutes les autres, et les noms des générations X, Y, Alpha, et qui s'enchaînent
vous,
avec l'impression.
Mais vous énerve, cette génération
Non, moi, elle m'énerve pas. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est parlons-en, discutons, engageons une conversation ensemble, essayons de réconcilier tout ça. Je pense que la meilleure façon, finalement, d'arriver à trouver des solutions, c'est de se comprendre. Or, on n'essaie pas de se comprendre. Il y a un manque réel de dialogue entre ces générations qui deviennent des mentors pour beaucoup, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la majorité des associations. Dès qu'on essaie d'aider des jeunes, on va chercher des mentors plus âgés ou des personnes qui vont apporter une expérience et une aide. Mais à côté de ça, finalement, ces personnes-là ne comprennent pas qu'il y a un mentorat inversé qui peut exister et qu'on peut essayer de discuter et trouver des solutions ensemble.
Vous êtes d'accord avec ça, Camille Etienne ?
C'est vrai que moi, on a essayé beaucoup de m'enfermer dans les OK boomers vs les millennials. Je pense que on n'a pas le temps de faire le combat de qui a eu la génération la plus pourrie.
Oui.
Oui, ok, vous avez eu des famines, des guerres, c'était dur, merci pour vos combats. On continue pour le droit des femmes, pour tout ce que vous avez fait, on continue à les porter, à s'en saisir. Mais moi, si j'aurais un message à faire passer, en fait, il y en a deux en réalité. C'est que, très, simple, très rapidement, nous, notre génération vit quand même quelque chose d'assez unique dans l'histoire de l'humanité, c'est que l'intégralité d'un demain est menacée. Et alors, c'est quand même assez terrifiant.
Camille Etienne, justement, je vais me permettre, pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne connaissent pas forcément votre parcours et cette vidéo que vous avez faite il y a maintenant quelques temps, qui est devenue virale partout en Europe, qui a eu un succès assez incroyable, pour rappeler précisément la jeunesse à se réveiller. On va écouter quelques instants.
Je suis désolée. On pensait que ça n'arriverait qu'aux autres, qu'aux grands perdants de ce système. Pour la première fois, on a décidé de ralentir cette course effrénée à la croissance, au nom de la vie. Nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement climatique et la dernière à pouvoir y faire quelque chose.
Voilà, ça c'est la vidéo en question. Ça dure une dizaine de minutes. Je l'ai regardé tout à l'heure sur Internet. Voilà, ça marche très bien. C'est très impactant, comme on dit aujourd'hui. Ça a eu un retentissement partout en Europe. Et justement, je vous interroge sur cette fracture générationnelle, parce que ce qu'on comprend aussi à travers ce message, même s'il ne s'agit pas de pointer la responsabilité sur tel ou tel, c'est quand même que c'est la génération d'avant qui nous a mis dans cette situation-là. Et que maintenant, c'est à vous, les jeunes, qui incombe de changer la donne.
Parce qu'on n'a pas le choix. Donc maintenant, ça c'est un constat. En effet, je pense qu'il y a une petite partie de cette génération qui est au courant et qui a sciemment fait en sorte de préserver pour ses intérêts ce monde-là, mais il y a toute une grande partie qui ne savait pas. Et nous, on a plongé la tête la première dans l'eau glacée, on a étiré cette société de consommation dont on paye les conséquences. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à la génération d'avant, entre guillemets, c'est que c'est une main tendue. Ce qu'on a envie de leur dire, c'est en fait, bousculer votre monde, c'est pas le faire disparaître. Écrire notre histoire, c'est pas effacer la vôtre. Et c'est peut-être ça, grandir, en fait. C'est peut-être se chercher, se saisir de ce commun et questionner les mots, est-ce qu'on rajoute ou pas des lettres, questionner nos genres, questionner nos idéaux. Et c'est ça, grandir. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'ils nous apprennent à grandir à leur côté.
Quand même, il y a une déconnexion entre vos attentes, vos espérances, et puis un peu le discours peut-être paternaliste aussi d'une certaine génération.
Il y a des gens condescendants de partout, de tout âge. Il y a des gens qui ont envie de rester dans leur petit privilège sans ouvrir les yeux parce que ça fait peur d'ouvrir les yeux et de voir que d'autres paient les conséquences de nos actes. Ça, on n'a pas besoin d'âge pour ça. Mais il y a des gens qui se bougent de toutes les générations. Quand on voit en termes de sociologie, par exemple, sur l'activisme, donc on parle beaucoup de Paris, des mouvements, des marches pour le climat, etc. Mais en local, c'est-à-dire quand on va dans les villages, par exemple, c'est des personnes plus âgées qui sont à la tête de ces mouvements-là. Donc on a besoin de tout le monde, c'est une main tendue. On a l'énergie, vous avez l'expérience, avançons ensemble.
Alors sur l'engagement, Gabriel Légeret, vous avez 27 ans, je le rappelle. Vous êtes responsable plaidoyer de l'association Chemin d'Avenir, qui aide donc des jeunes de la France rurale à s'engager. On entend souvent cette petite musique, ce petit discours, qui est de dire, grosso modo, les jeunes ne s'engagent plus. Il n'y a plus d'engagement dans la jeunesse, comme il y avait... Vous n'avez pas connu, et moi non plus, mais dans les années 60, 70, après mai 68, où tout le monde était très engagé. Est-ce que vous dites non, c'est pas vrai, nous les jeunes on s'engage?
Non, c'est pas vrai, nous les jeunes on s'engage, et avec Chemin d'Avenir on voit à quel point dans leur territoire les jeunes sont très engagés. Alors c'est plus un engagement dans les partis politiques comme ont connu nos parents ou nos grands-parents, mais il y a énormément de jeunes qui s'engagent en faveur du développement durable, en faveur des personnes âgées aussi. Nous, dans les territoires ruraux, ce qu'on voit et ce qui remonte, c'est des jeunes qui se sont engagés pendant la crise sanitaire pour apporter des paniers repas aux personnes âgées qui étaient isolées. Il y a un véritable engagement.
Et vous trouvez que ça, c'est pas après assez pris en considération par peut-être les politiques, peut-être les anciennes générations qu'on évoquait, ceux qui détiennent aujourd'hui la puissance d'action dans notre société?
Non, c'est pas assez pris en compte. Et surtout, si on regarde dans la ruralité, dans les petites villes, c'est difficile pour les jeunes de s'engager. Parce que le tissu associatif peut être moins dense, parce que, par exemple, des services civiques, il y en a moins dans les zones rurales. Oui. Mais il y a une envie de la jeunesse de prendre son avenir à bras-le-corps et surtout de mettre le sens et l'impact au centre de sa profession, au centre de son cheminement professionnel. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup.
Guillaume Bénèche, 21 ans, jeune entrepreneur, je le disais tout à l'heure. À quoi on rêve quand on a 21 ans et qu'on a envie d'être entrepreneur et de faire de l'entrepreneuriat de sa vie? Peut-être, je ne sais pas quelles sont vos ambitions, mais voilà, à quoi vous rêvez, vous?
Mais on a l'envie, je pense, surtout. C'est-à-dire, au-delà du rêve, c'est cette envie c'est ce que vous disiez tout à l'heure, cette envie de se concentrer sur des valeurs qui sont les nôtres, sur cette envie de s'engager, finalement, d'avancer.
C'est quoi vos valeurs, à vous?
Les miennes, c'est peut-être celle du partage, c'est celle de se dire que globalement, on est capable de se concentrer sur un avenir qui serait meilleur.
La différence entre les générations passées et votre génération, c'est de donner un sens.
Oui, complètement. Mais la quête de sens, elle est majeure. Aujourd'hui, plus de 60% des jeunes ont envie d'avoir un sens dans l'entreprise dans laquelle elles sont. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est-à-dire que derrière, on a envie d'aller chercher du sens, on a envie de s'engager pour des choses qui vraiment nous apportent et nous apportent quelque chose et nous importent de façon générale. Et oui, quand on entreprend, quand on s'engage, quand on essaye de faire des choses, on essaye simplement d'imaginer un futur qui correspond à ce qu'on a envie de créer pour nous, pour notre société, pour nos enfants plus tard, et d'essayer aussi de se concentrer sur cette idée que en effet, il y a un passé, il est là, on a des générations qu'on respecte terriblement pour plein de choses qu'elles ont pu créer et qu'elles nous ont laissées, et qu'aujourd'hui, on est dans un présent qu'on essaie de construire pour avancer.
Il faut nous écouter.
Mais bien sûr.
18h50, on se retrouve dans quelques instants. On parlera du travail notamment. J'ai envie de vous entendre aussi sur le travail. À quoi ressemblera votre travail, le travail et vos espérances en la matière pour les années à venir. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on poursuit le débat des grandes voix spéciales jeunesse ce soir, 18h51, avec notre semaine spéciale sur Europe 1, vous le savez, au chevet de ceux et celles qui vont construire le monde de demain. C'est important, évidemment. Alors, à quoi rêve la jeunesse pour le monde d'après et qu'attendent-ils de nos politiques? Tiens, notamment, Zoé Palli a justement posé la question à notre panel jeune. Je vous propose d'écouter.
Moi, la politique, avant, je m'en intéressais pas trop. Mais du coup, avec le Covid, maintenant, avec les interventions de Macron qui sont beaucoup plus fréquentes, je m'y intéresse un peu plus. Par exemple, de regarder ce que les partis politiques proposent les uns les autres pour sortir de la crise.
Voilà, Camille Etienne, 22 ans, étudiante et militante écolo, est toujours à mes côtés en studio. Vous y croyez, vous, encore à la politique ?
Mais la politique, je la fais tous les jours. La politique, ce que ça veut dire, c'est la police, c'est la gestion de la cité.
Oui.
C'est se retrouver ce bien commun. Et il faut qu'on s'en saisisse, il faut qu'on arrive à penser un peu plus grand que nous-mêmes. Et je crois que cette génération a soif de ça, manifestement, parce que y a l'environnement, il y a tout, il y a cette question sociétale. C'est en fait se saisir de quelque chose qui ne concerne pas uniquement nous,
mais notre matière d'habiter le monde. Différemment quand même. C'est-à-dire vous faites
mais
de la politique
heureusement,
à
sinon
travers
ce serait
les acteurs
mou.
De la société civile. Ça veut dire que votre conviction, c'est aujourd'hui les acteurs de la société civile dont vous faites partie, les jeunes, les citoyens, qui feront bouger les lignes et non pas la classe politique.
On a un écosystème, c'est-à-dire qu'on a besoin de gens ambitieux, de gens audacieux, de gens intransigeants et éveillés partout, dans tout. On a besoin d'entrepreneurs comme ça, de journalistes comme ça, de politiques comme ça. Il y en a qui sont à la hauteur et qui font bouger les lignes de l'intérieur. Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de rentrer en politique, faites-le. Simplement, je crois qu'il y a une partie de sa jeunesse qui ne se retrouve pas aussi dans ces règles de la Ve République, dans ce présidentialisme de « on vote une fois tous les 5 ans et après, merci, au revoir, on ne vous écoute plus ». On voit comment la Convention citoyenne pour le climat, qui est quand même un outil démocratique très intéressant, comment il a quand même intéressé toute une partie de sa jeunesse qui s'en est saisie. Donc je me dis que c'est pas complètement foutu, non. Je pense que les jeunes s'engageront encore demain en politique.
Gabriel Légeret, vous avez 27 ans, je le rappelle, responsable plaidoyer à l'association Chemin d'Avenir, qui aide donc des jeunes de la France rurale à s'engager. Que vous disent-ils, tous ces jeunes que vous représentez, que vous essayez de pousser dans les petites communes, sur les territoires ruraux, vous en parliez très justement tout à l'heure, et qu'attendent-ils du monde du travail et des hommes politiques et
d'abord,
des femmes politiques,
ils ont envie d'être libres dans leur avenir, et aujourd'hui ils ne le sont pas toujours. Ils se sentent quand même très freinés en raison de leur ancrage géographique, parce qu'ils cumulent un certain nombre de défis liés à leur territoire, mais ils ont envie d'engagement. Ça, c'est certain que l'engagement est au cœur de leur volonté.
Mais je vais vous poser une question pour aller plus loin, qui n'est pas très politiquement correcte. On dit souvent que les Français attendent trop de la puissance publique, attendent trop de l'État. Et l'État ne peut pas toujours tout, on le sait, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'anciens premiers ministres notamment. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette jeunesse attend trop de l'État ?
L'État ne peut pas tout, et je pense que si la jeunesse se tourne beaucoup vers les associations ou vers un engagement du côté de la société civile, c'est parce qu'elle s'y retrouve plus, et cette société civile peut impulser des directions au niveau politique. Je vous donne un exemple, mais nous, ça fait quand même depuis 2016 qu'on milite pour qu'il y ait une politique publique en faveur des jeunes ruraux, pour vraiment traiter les problèmes à leurs racines. On a rendu un rapport à Jean-Michel Blanquer sur cette question. Et depuis quelques semaines, là, il y a une expérimentation qui s'appelle les territoires éducatifs ruraux, qui sont en train d'être mis en place. Donc peut-être que c'est le début.
Jeunes, et ces jeunes que vous représentez de milieux ruraux, ils ont envie de rester là où ils habitent, ou ils ont envie de partir ailleurs? Parce que c'est important aussi de faire vivre nos territoires.
Nous, on a envie qu'ils puissent partir pour mieux revenir.
Oui.
Si on vous oblige à rester dans votre territoire, est-ce que vous avez vraiment envie de l'aimer, ce territoire?
Oui.
Nous, ce qu'on a envie, c'est de permettre à des jeunes d'avoir une mobilité en fait, entre les territoires, qu'un jeune de la Nièvre puisse te dire qu'il peut aller faire ses études à Caen ou une école d'architecture à Lyon pour revenir sur son territoire et pouvoir impulser une architecture écologique, moderne, avec sa mairie. Voilà, c'est ça qu'on
veut. Oui, que ça fasse vivre les territoires à travers les expériences qu'ils ont pu acquérir à droite, à gauche. Guillaume Bénèche, vous avez 21 ans, vous êtes jeune entrepreneur. Peut-être que demain, avec le télétravail, qui sait, vous irez vous installer en milieu rural
pour faire
vivre ces territoires.
C'est très, très probable. Je viens de Rouen et je suis très, très attaché à la Normandie Et il y a des territoires hors de Paris. Moi, ça fait que 2 ans que je suis à Paris et je navigue beaucoup entre la Normandie et
Qu'est-ce
Paris.
Que vous attendez, vous, du monde du travail? Alors, vous n'attendez pas grand-chose, parce que pour rebondir sur la question que j'ai posée juste avant, vous, vous avez décidé de prendre les choses en main et de créer vos...
Ah mais justement, c'est justement pour ça que j'attends
business,
des choses.
Vos boîtes.
C'est justement pour ça que j'attends quelque chose. Je pense que le rôle d'un entrepreneur demain, c'est d'injecter du sens dans notre société et notamment dans l'entreprise.
Vous trouvez qu'on en manque aujourd'hui?
Terriblement, terriblement. On manque de sens. Des gens qui travaillent et qui se sentent obligés de travailler, qui gagnent mal leur vie, qui rentrent chez eux fatigués en se demandant pourquoi ils vont se lever le lendemain matin. Pour moi, c'est un vrai problème de sens. Et ça, c'est une problématique qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et je pense que c'est quelque chose que notre société et justement notre jeunesse au sein de cette société peut insuffler demain. C'est cette idée de sens au quotidien.
Alors, il nous reste 30 secondes. Je vais vous demander à chacun, si vous aviez le président de la République en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez en 3-4 mots? Camille Etienne.
Soyez à la hauteur de l'enjeu.
Soyez à la hauteur de l'enjeu. Gabriel Légeret.
De résorber les fractures territoriales et peut-être avant ça de les regarder.
Bien. Message cohérent par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Et vous, Guillaume Bénèche?
Engager une vraie conversation avec la jeunesse.
Oui. Vous trouvez que ça manque?
Terriblement. Terriblement. Oui. Terriblement. Si demain...
Les interviews sur Brut, c'est pas suffisant.
Mais c'est pas engager une conversation avec la jeunesse, de faire une interview sur Brut, c'est bien le problème. Tout comme faire une interview sur Twitch. C'est pas ça, engager une conversation, c'est aller beaucoup plus loin, c'est aller en profondeur, c'est s'adresser directement.
On espère qu'il vous écoute, en tout cas on lui passera le message. Merci infiniment, c'était absolument passionnant. Merci d'avoir joué le jeu et merci d'être venu dans le studio d'Europe Soir.
Europe 1, écoutez le monde changer.